Vous écoutez RTL.
RTL.
C'est sans doute le lac le plus mystérieux de notre planète.
La curiosité est un vilain défaut.
Le Titicaca.
Jusqu'à 22h,
le lac Titicaca se situe au Pérou et en Bolivie, à une hauteur de 3809 mètres au-dessus du niveau de la mer. Un lac aussi grand que la Corse, qui n'a pas encore dévoilé tous ses secrets.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les secrets engloutis du lac Titicaca, c'est le thème de notre curiosité et d'un documentaire diffusé mercredi soir sur France 5. Le réalisateur de ce doc, Frédéric Cordier, et le directeur du projet archéologique, Christophe Delard, vont nous faire découvrir ces secrets. Bonsoir à tous les deux.
Bienvenue.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue dans la curiosité. On va commencer par se situer, on vient de l'entendre, on est à 3800 mètres d'altitude. Est-ce que c'est le lac le plus haut du monde ?
C'est le lac navigable, on va dire, le plus haut du monde, oui. C'est le lac où il y a moyen de faire une navigation, on va dire, digne de ce nom, à la hauteur la plus haute au
D'accord,
monde.
Donc on est sur la cordillère des Andes, mais on est dans quel pays ?
Alors, le lac Titicaca se situe sur deux pays, hein, le Pérou, pour la partie nord du lac, plus ou moins, on va dire, 55% de la superficie du lac, et la partie sud, la Bolivie, donc 45%.
Est-ce qu'on sait d'où vient ce nom du lac Titicaca, qui fait rire beaucoup d'enfants, ma fille par exemple, et plein d'adultes aussi.
Moi aussi, ça me fait toujours rire, moi.
Oui, c'est vrai que le Titicaca, ça fait un peu rêver, c'est un nom qui interpelle. Hein. Donc, ça fait... En fait, le nom Titicaca viendrait de la langue native Aymara, locale de la région, qui voudrait, à l'époque, ça s'appelait Titi Carca ou Titi Jaya, on ne sait pas trop, qui veut dire roc, la roche du puma ou le lieu dit du puma, on va dire ça
donc
comme ça.
Donc Titi c'est puma.
D'après une vieille légende,
Titi, c'est puma, ouais.
Titi c'est puma, oui. Mais ça reste un peu à discussion. D'ailleurs, Christophe m'a encore dit que ça pouvait être sujet à voilà.
Ah bon, Christophe
Delard, pourquoi ?
Alors c'est très simple. L'évolution est multiple. Il y a eu beaucoup de langues, beaucoup de pays, beaucoup de, on va dire, de dominations étrangères, dont les Incas, c'était des étrangers. Et par exemple, on parle du rocher d'Inti, du soleil ou du Cala. Enfin, il y a pas mal de terminologies dont nous, archéologues, justement, on a trouver un peu les arcanes de la langue en plus du matériel.
Alors il y a plein de civilisations à explorer et à découvrir grâce à vous dans ce documentaire. Et puis alors il y a une surprise déjà. On parlait il y a quelques jours des îles à éclipse, ces îles qui apparaissent et qui disparaissent, des îles volcaniques.
Des îles de beurre.
Voilà, des îles de beurre, comme disaient les marins, qui sont alors elles au milieu des océans. Là, il y a effectivement un peu ça dans ce lac Titicaca, parce que le niveau de l'eau a évolué, c'est ça, au fil du temps ?
Alors, il y a une fluctuation. Il faut vraiment imaginer, ce sont des lacs d'altitude,
ouais,
comme dans le Jura, comme en Suisse. Donc il y a vraiment, on va dire, une balance hydrique entre la fonte des glaces et l'évaporation.
Mmh.
Donc effectivement, le niveau du lac varie beaucoup, ce qui aurait une incidence énorme sur l'archéologie.
Donc ça veut dire qu'il y a des îlots qui apparaissent et qui disparaissent.
Des petits cailloux, des rochers, des îlots, ouais, des îles entières parfois, en tout cas qui au bord de l'eau. Et effectivement, c'est parfois impressionnant parce que d'une saison à l'autre, on n'a pas le même paysage, on n'est pas confronté au même espace.
Alors on entendait dans la mise en onde d'André Facetta un lac grand comme la Corse, mais c'est absolument incroyable, c'est même très difficile à mesurer finalement.
Oui, 1400 km², c'est gigantesque. Donc c'est la Corse, c'est Puerto Rico. Il faut imaginer que pour les habitants de la Cordillère des Andes, avoir une superficie comme ça, un lac d'eau douce, pour eux, ça s'apparente à une véritable mer, en fait.
Et puis entreprendre des fouilles archéologiques dans un tel site, un travail de titan, j'imagine. Combien d'hommes et quels moyens matériels vous avez mobilisés ?
Alors justement, la plus grande difficulté, c'est cette superficie. Il faut vraiment imaginer qu'on travaille sur 60-70 mètres carrés par saison et on est confronté à presque 9000 km² d'endroit. En d'autres mots, il ne faut pas se planter, il ne faut pas se rater.
Il faut bien choisir.
Il faut des retours d'investissement, il faut se lancer.
Il faut bien choisir le site.
Il y a une grande étude bien solide en amont. Et en gros, quand on commence à fouiller dans le sédiment, il faut qu'on ait des résultats. En général, on les a, mais c'est un travail de longue haleine.
Alors ce lac, il a un caractère sacré pour les habitants. On écoute un premier extrait du documentaire.
Par rapport au lac, il y a de nombreuses légendes de cités perdues, de trésors qui sont transmises justement de père en fils. Dans le cadre de ce projet, l'objectif n'est pas de désacraliser le lac est sacré, mais d'une certaine manière démystifier certains mythes.
Alors Christophe Delard, c'est vous qu'on entend dans le documentaire de Frédéric Cordier. On va parler des mythes, mais d'abord ce caractère sacré. On sait depuis quand, depuis peut-être toujours, ce lac est sacré pour les riverains ?
dans l'état actuel, c'est un lac sacré. C'est comme une église, c'est un sanctuaire. Donc on ne rentre pas dans les eaux de manière comment on dit en français, impunément. Voilà.
Merci. Oui, impunément. Ouais.
Et donc voilà, à un moment, justement, l'enquête, ça a été remontée dans le temps pour savoir à partir de quel moment ce lac était devenu sacré. D'où d'ailleurs des surprises archéologiques.
Alors c'est depuis quand?
Et ben voilà, maintenant on a plus ou moins la preuve, c'est cette fameuse culture Tiwanaku, dure à prononcer. Donc c'est une culture pré-incaïque. On se rend compte qu'avant les Incas qui ont vraiment transformé ce lac en sanctuaire, avant c'était Méditerranée, ça veut dire il y avait des ports, il y avait des activités de pêche. C'est vraiment une opportunité, on va dire, de vie.
C'était un lieu d'activité, quoi.
C'était un lieu d'activité, comme en Suisse, comme en Méditerranée, simplement.
Et cette civilisation, ça remonte jusqu'en...
Alors ça paraît très vieux, mais les Tiwanaku, c'est le 6e, 11e siècle. Donc antiquité tardive, ouais. Jusqu'au 11e. Les Incas, par exemple, c'est Charles Quint. Donc on pense souvent aux Incas, les Égyptiens, c'est vieux. Non, les Incas, c'est le 16e, c'est 15e, 16e, c'est vraiment récent. Donc ici, les cultures pré-incaïques, c'est finalement pas si vieux.
Donc ça veut dire qu'il faut faire vraiment honneur à ce lac, arriver avec beaucoup d'humilité. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, le réalisateur et l'archéologue, quand vous êtes arrivé? Des cadeaux, vous aviez prévu?
Ben, d'abord, on est allés tous les deux. Hein. D'abord, bon, il a fait un gros travail en amont, puis je l'ai accompagné, on a fait un gros repérage. On est allés rencontrer les communautés indiennes du lac. On est allés discuter du projet, un peu voir comment on pouvait collaborer ensemble. On savait que pour eux, c'était un lieu sacré. On ne s'y baigne pas comme ça. Et en plus, on certainement pas y plonger et faire des fouilles archéologiques comme ça. On ne peut pas débarquer et dire, bon, voilà, on vient avec 30 personnes et on va faire des fouilles dans votre lac. Donc, il a fallu faire tout un travail de créer un climat de confiance, fédérer les communautés autour du projet. Et ils ont très très vite adhéré, ça n'a pas pris trop de temps. Et c'est ça qui était aussi très intéressant, c'est qu'on est dans un sujet qui porte.
Parce que ça leur permettait d'apprendre aussi des choses sur leur lac, sur leur histoire, il y avait de ça? Christophe Delard.
Je vais répondre justement parce que c'est bien plus complexe parfois. On a été confronté par exemple à des communautés qui nous disaient, nous on sait ce qu'il y a dans l'eau, on ne veut pas que vous allez plonger, on sait ce qu'il y a. Donc parfois, avec un peu plus de conviction, on essaie de présenter nos problématiques. C'est quand même, on va dire, un dialogue assez complexe à mettre en place avec les autorités. Elles sont multiples autour du lac et donc voilà, c'est tous des enjeux humains, surtout par rapport à cette problématique.
Vous avez dû faire des offrandes au lac, c'est vrai ça? J'ai été surpris par cette
belle maman,
par cette histoire.
Oui, on en a fait plusieurs, hein, chacun un peu. Quand on passe d'une communauté à l'autre, ben on refait une offrande. Hein, donc chaque communauté nous oblige en quelque sorte à faire une offrande avec eux.
Mais ça veut dire
Et ça va jusqu'à faire une offrande, un sacrifice de lama. Oui, tout à fait. Donc on sacrifie un lama sur un point particulier, donc un endroit sacré qui correspond en tout cas à un endroit sacré pour eux. Ouais. Et puis on a été jusqu'à le jeter dans les eaux du lac avec toute l'équipe scientifique et l'équipe de tournage.
Ça vous a choqué ou vous avez compris? Vous êtes glissé dans la peau des Indiens?
Personnellement, nous, ça nous a pas choqué parce qu'il y a déjà quelques années qu'on travaille donc sur ce territoire-là. Mais bon, ça fait quand même toujours un petit peu, quand on aime un petit peu nos amis les bêtes, oui. Ça fait toujours, c'est assez, c'est un petit peu barbare malgré tout. Hein.
Alors, en tout cas, vous avez été accepté par ces communautés, vous avez obtenu l'autorisation de lancer ces fouilles archéologiques sous-marines. Alors, je dis ça semble simple, sauf qu'il faut plonger dans une eau à 10 degrés par presque 4000 mètres d'altitude. Et c'est un vrai défi que les plongeurs ont dû relever, on le raconte tout de suite sur RTL.
Avec RTL, cultivez votre curiosité jusqu'à 22h.
Vous écoutez RTL.
Sur RTL, on vous emmène sur la cordillère des Andes au bord du lac Titicaca pour assister à une première mondiale, une expédition scientifique sous-marine pour trouver des vestiges d'une civilisation ayant vécu autour du lac. Avec nous, Christophe Delard, directeur du projet archéologique, et à vos côtés, Frédéric Cordier, réalisateur d'un documentaire qui sera diffusé mercredi à 21h40 sur France 5. Alors, pour avoir le droit de plonger dans cette eau du Titicaca, vous avez dû évidemment discuter, partager avec les nombreuses communautés indienne. Vous avez même dû faire une offrande au lac, c'est passé par le sacrifice d'un lama. Et vous, Christophe Delard, vous avez même été baptisé. Vous avez un nom indien, c'est ça que ça veut dire?
À ma foi, j'ai eu beaucoup de chance et ça montre aussi la confiance et aussi la politique du projet au sein du lac. C'est vraiment la fusion entre les équipes boliviennes et la nôtre, on va dire. Alors moi, personnellement, mon nom aymara, mon baptême aymara, c'est Kota Katari, qui est en fait le serpent puma du lac. C'est un peu l'être mythique. Bon, j'en suis très flatté justement parce que voilà, c'est un animal légendaire associé à celui-ci. Et ma foi, c'est surtout une intégration social.
Oui, c'est un signe. Ils vous ont proposé de vous baptiser, c'est ça, pour
ils m'ont
vous
pas laissé le choix.
C'est vrai.
Mais
c'est
ça fait combien d'années que vous y allez?
Le couteau ou le baptême? Non, je rigole bien sûr.
Le couteau ou le baptême?
Ah bah, le baptême.
J'étais fort ému et ça s'est passé d'ailleurs en soirée.
C'est comment un baptême indien?
C'est il faut tenir le coup.
C'est-à-dire
beaucoup d'alcool.
En quantité
même.
D'alcool
consommée. La bière ne nous fait pas grand-chose. C'est un peu de l'eau, ouais. Sans se vanter, bien sûr.
Mais
écoutez, c'est surtout très émouvant. C'est de la musique, c'est des cantiques. Il y a de la chanson, il y a des paroles.
Et vous êtes baigné dans le lot du lac ou pas?
Quand même pas comme ça. Non. C'était sur la terre ferme, mais c'est surtout très fusionnel. On voit que les gens sont vraiment pris dedans. Il faut imaginer ces regards, ces visages empreints de respect sur leur culture, on va dire, ancestrale. Parce que le catholicisme, maintenant, en Amérique du Sud, c'est une religion un peu syncrétique entre leur monde et justement depuis le 16e siècle. Et donc c'est surtout très émouvant si on la trouve.
Et c'est très charnel. Les Boliviens, les Péruviens, la population des Andes, ils ont un côté un peu. Ils sont très introvertis. Mm-hmm. Mais dans ce cadre-là, dès qu'il y a le climat de confiance qui s'installe, ils commencent à devenir très charnel.
C'est très tactile.
Et les relations deviennent très émouvantes et très fortes. Et on se fait des amis pour la vie, ça c'est certain.
Et donc avec ce programme de fouilles, vous cherchez des traces d'une civilisation très ancienne. On est entre le 6e siècle et le 11e siècle, qu'on appelle la civilisation Tiwanaku, c'est ça?
Tiwanaku,
je le prononce mal, avec des difficultés techniques pour plonger dans cette eau du lac Titicaca.
Christophe et son équipe plongent à 3809 mètres d'altitude, ce qui rend les plongées beaucoup plus contraignantes, voire même dangereuses, pour des plongeurs qui ne seraient pas expérimentés et entraînés. À cette altitude, les profondeurs sont augmentées de plus de 50%, par rapport aux références de paliers de décompression en mer. Une plongée à 10 mètres de profondeur dans le Titicaca équivaut à une plongée à plus de 15 mètres en milieu marin.
Ça change quoi, Christophe Delard? On vient d'entendre un extrait du doc. Ça veut dire quoi, des plongées plus courtes? On a moins de temps à passer sous l'eau?
Concrètement, plus court, mais vraiment, dans la pratique, pas grand-chose. C'est vraiment relatif. C'est la pression, la colonne d'eau est la même, qu'on soit à 10 mètres en Méditerranée ou 10 mètres au lac. Simplement qu'on a des contraintes, on va dire, physiologiques plus importantes.
Qu'est-ce que vous voyez sous l'eau? L'eau du Titicaca?
On a beaucoup de chance, hein. C'est une eau limpide, c'est un peu comme la Corse finalement. Parce qu'on parle de 4000 mètres d'altitude, donc on imagine les montagnes, les glaciers. Il faut vraiment imaginer une étendue d'eau, un paysage verdoyant, des troupeaux, enfin c'est très simple, c'est très joli. Et sous l'eau, en fait, avec cette lumière qui traverse cette eau, c'est juste très beau, simplement.
Il faut faire attention de ne pas trop remuer, parce que vous plongez à quelle profondeur en fait?
Attention, là on parlait de la plongée, après pour nous la plongée c'est un peu la contrainte. On n'est pas plongeur à la base. On est archéologue et c'est un peu un mal nécessaire pour justement atteindre nos objectifs, à savoir l'archéologie. Et donc la plongée, en fait, parfois on l'oublie même, hein, on descend, on travaille, et c'est seulement quand on est sous l'eau, en contact du sédiment, qu'on commence à faire vraiment toute l'étude, toute l'enquête archéologique.
C'est quoi du sédiment? Ça ressemble à quoi?
C'est de la vase, c'est ce qu'on a au fond des étangs, chez soi, dans la rivière. C'est vraiment un dépôt de sédiments meubles, volatiles. Imaginez un coup de palme, un coup de main dedans, et on se retrouve dans un brouillard.
Mais alors comment vous faites? Vous glissez vos doigts comme ça, très délicatement, pour fouiller dans la vase?
Alors il y a des techniques. Donc évidemment, le plongeur en soi arrive à gérer en fonction du courant, etc., pour avoir une visibilité. Surtout, on a des outils, on fouille. Donc c'est en gros un aspirateur à sédiments. Il faut imaginer qu'on implante des carrés de 2 mètres sur 2 sous l'eau. On a un aspirateur, on aspire le sédiment, ça va dans le tamis, et en fait on descend progressivement dans le sédiment.
D'accord.
Comment ça reste, il faut imaginer?
Vous creusez un mini.
De manière plus pragmatique, on fait des trous.
Oui, carrés.
Mais des trous très méthodiques.
D'accord, chaque plongeur a son espace, c'est ça?
Plus ou moins, on est à plusieurs. La plus difficile, c'est les rotations. On ne peut pas parler sous l'eau, donc je ne peux pas faire un débriefing à 10 devant la coupe.
Mais ces sédiments, ils ont un sens quand vous remontez et que vous regardez ces trésors-là, vous dites oh, regarde, on a trouvé ça, on a trouvé ça. Ou alors ça doit passer dans un labo, il faut les regarder avec un microscope, vous trouvez quoi?
Alors justement, un objet ramassé au fond de l'eau n'a pas de valeur historique, parce qu'il n'a pas d'information. Donc évidemment, le sédiment, c'est l'accumulation sédimentaire. Théoriquement, plus on creuse profond, plus c'est vieux. Donc quand un archéologue trouve un bel objet, ou même n'importe quoi, un témoignage anthropique, on fait l'étude, on fait des prélèvements, on fait des connexions. Il faut imaginer que si on trouve un ossement, c'est un ossement, mais en fait ça tombe, il y a tout le reste du lama entre guillemets. Donc évidemment, ce qui est le plus important, c'est l'enregistrement, c'est le contexte, puisqu'un objet qu'on trouve sous l'eau, à part qu'il soit beau ou pas beau, ça ne parle pas beaucoup.
Des fouilles comme celle-là, j'ai dit une première mondiale, ça veut dire qu'il y avait jamais eu d'autres tentatives, ou alors au contraire il y en avait eu mais pas très officielles, pas très autorisées.
Ben, il y en a eu des non officielles, non autorisées, un petit peu on va dire pirates. Hein, il y a eu quelques fouilles surtout du côté péruvien. Bon, la fouille la plus connue c'est l'expédition Cousteau, qui était en 68. D'accord. Donc Cousteau est allé là à l'époque.
Ça va faire 50 ans.
Oui, on va fêter les 50 ans de la découverte.
Vite, hein.
Ouais, voilà. Et puis, bon, il n'a pas trouvé grand-chose parce que, bon, il n'avait pas la connaissance à l'époque. En 50 ans, on a quand même fait beaucoup de progrès au niveau technologique et au niveau du savoir aussi. Il y a eu d'autres recherches, notamment un Américain, Johan Reinhardt, qui a effectué des fouilles dans les années 70. Et puis voilà, les premières véritables fouilles archéologiques dans le sédiment, donc où on va creuser, on se contente pas aller retrouver un dépotoir d'offrandes en surface, enfin à la surface en dessous de l'eau. C'est la première véritable fouille dans la roche et dans les sédiments dans le lac Titicaca.
Ces fouilles sous-marines ont permis des découvertes majeures. On vous raconte l'histoire d'un site mystérieux, un îlot aujourd'hui englouti, un lieu d'offrande pour les Tia. Wanako.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Que se cache-t-il dans les eaux sacrées de ce gigantesque lac de légende ?
Jusqu'à 22h,
les fouilles, qui vont se poursuivre pendant encore près de 3 ans, permettront aux scientifiques de remonter toujours plus loin dans le temps et tenter ainsi de mieux comprendre l'histoire trop méconnue de ces grandes civilisations andines.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le lac Titicaca nous livre une partie de ses secrets grâce à l'expédition sous-marine montée par nos invités, le réalisateur du documentaire diffusé mercredi soir sur France 5, Frédéric Cordier, et Christophe Delard, directeur du projet archéologique. Alors, vous nous l'avez dit, il a fallu choisir parce que le lac Titicaca, moi j'ai découvert ça, hein, je suis un peu nul en géographie, mais c'est grand comme la Corse. Donc c'est gigantesque, il a fallu choisir un site particulier pour mener ces fouilles. Et vous décidez de choisir, si j'ai bien compris, le récif de Coa, c'est ça?
Oui.
Pourquoi ce lieu?
Alors justement, pour éviter justement cette difficulté à trouver, du patrimoine sous l'eau, en fait, on a travaillé sur ce site qui avait déjà été découvert de manière fortuite par des Japonais en 77. Donc c'est vraiment, on commençait par là pour avoir des informations au-delà des objets de sédimentation, d'érosion, etc. Après, le film, il date de l'expédition de 2013. Donc on parle des 3 années, ça se poursuit. Effectivement, on est en 2017 ici.
Ah, ça, on est bien en 2017.
Entre-temps,
ouais.
On a commencé par quoi? Ça fait 4 ans qu'on n'a plus été sur le site. On va peut-être y retourner.
D'accord.
Donc entre temps, on n'en a pas un, mais une quinzaine de sites qu'on documente année après année.
Ouais.
Et donc c'est juste formidable.
Alors on va s'appuyer sur le doc qui est diffusé mercredi sur France 5 et détailler un peu ce qui se passe sur ce site de Coa. Les plongeurs vont rapidement faire une première découverte.
Après avoir creusé à 1 mètre de profondeur, les archéologues découvrent enfin ce qui semble être des ossements. Dans la foulée, ils trouvent également une mâchoire de lama et un fragment de céramique. Le site de Coa est prometteur.
Qu'est-ce que raconte, de quoi témoigne la découverte de ces objets?
Alors, premièrement, il faut imaginer le plongeur a une vision un peu tronquée. C'est-à-dire qu'il y a du sédiment, il y a un brouillard, il sort un ossement. Progressivement, c'est ça qui est vraiment chouette, c'est à force de dégager et d'étudier les connexions entre les objets, on se rend compte que les fragments de céramique constituent une céramique, les fragments d'ossement constituent un sacrifice de lama, et que finalement, des objets même plus précieux constituent l'assemblage, le kit d'offrande. Donc c'est vraiment ça qui, petit à petit, de manière visuelle et après à l'étude, fait découvrir, on va dire, le site.
Les Incas en avaient fait eux-mêmes un site d'offrande, ça veut dire que cet îlot était toujours visible après le 11e siècle?
Alors c'est controversé. À mon avis, il y a le côté visible, donc la tradition orale a retenu que c'était un site d'offrande. Moi maintenant je suis persuadé que les Incas, quand ils ont fait des offrandes 5 siècles après la disparition de la culture Tiwanaku, n'avaient aucune idée de ce qu'il y avait sous l'eau. Or ce qu'on a trouvé sous l'eau, c'était juste incroyable.
Ouais. Alors c'est incroyable, et les découvertes elles continuent, hein, parce que vous nous l'avez dit, il y a des fouilles qui se poursuivent aujourd'hui. Et puis vous nous avez dit que finalement l'aspect le plus important peut-être de ces découvertes, c'est qu'il y avait une vie économique sur ce lac. L'un des plongeurs a trouvé une encre. Alors elle ressemble à quoi cette encre? Vous pouvez la décrire? C'est pas une encre comme
non,
celle
c'est
qu'on
pas,
imagine.
C'est pas l'encre qu'on s'imagine, nous, ouais. La belle encre de bateau. Ouais. C'est en fait une pierre, ce que Christophe appelle un lithique, en fait, hein, comme il dit dans le film. Mm-hmm. C'est une grosse pierre rainurée, donc a été travaillée pour pouvoir y attacher une corde. Donc c'était une grosse pierre qui était en fait lestée, hein, par les navigateurs de l'époque. Et il faut savoir, quand on découvre ce genre d'objet, bah moi-même, quand j'ai vu remonter sur le bateau, j'ai du mal à imaginer que c'est une encre. Heureusement que je suis avec des scientifiques aguerris qui très vite savent à quoi ça correspond.
Il faut nous regarder sur RTL.fr parce que Christophe Delard, il mime tout ce que dit.
Ils sont filmés.
Ah oui, c'est filmé, ça.
Oui, RTL.fr.
Ah oui, oui.
Donc, écoutez, donc, en tant que belge, j'ignorais totalement.
C'est la radio télévisée ou la télévision
D'accord,
à la radio, comme vous
formidable.
Voulez. La découverte de cette encre, là, cette grosse pierre striée comme ça, ça raconte quoi, Christophe Delard, sur la civilisation, sur l'avancement de cette civilisation?
Voilà, justement, alors, au-delà du caillou, c'est simplement des preuves indirectes, simplement de la navigation. Parce que là, on parle d'offrande, on parle de civilisation au bord d'un lac. Jusqu'à présent, on n'abordait jamais ce qui définit une culture lacustre, à savoir la pêche, l'exploitation des ressources agricoles, la navigation, les ports. Et en fait, c'est justement une des problématiques qu'on a sur ce projet, c'est que le niveau du lac a augmenté et il se fait que tout l'espace littoral est sous l'eau. Donc ici, en fait, depuis 4 ans, on traque cet espace, enfin, on l'étudie et on est confronté non seulement à des espaces portuaires, mais à des ateliers de production spécialisés, de tailleurs de pierre, des abris sous roche, des campements. En fait, on a tout un espace et une pratique, on va dire, méconnue de cette culture parce qu'elle avait été oubliée simplement parce qu'elle est sous l'eau.
Oui, et puis une vie quotidienne qui émerge, du coup, vous pouvez palper et raconter.
C'est ça. Alors, le boulot de l'archéologue, c'est faire parler les objets. Ces civilisations n'avaient pas d'écriture. Donc on n'a pas de texte qui nous parle justement de ces Tiwanaku, cette culture pré-incaïque. Et donc le boulot de l'archéologue, c'est faire parler ces objets avec les assemblages. Je parle beaucoup avec les mains.
Mais c'est bien, c'est génial.
Parce que c'est un métier manuel aussi.
Et ouais. c'est très physique aussi. Ça concilie la tête et le corps. Malheureusement, bref. Et justement, on fait parler ceci. Et au fin de compte, imaginez, on a un bout de silex, on a des fragments de minéraux, on a une corne une corne simplement. Ouais. On a un gros caillou. En fait, on se rend compte que c'est un percuteur, un chasse-lame, les matières premières, les éclats de taille et la pointe de silex. En fait, on a un atelier, donc c'est justement ce qu'on fait, c'est on fait parler ces objets.
Vous êtes des enquêteurs, en fait.
C'est une enquête. L'archéologie, c'est comme l'historia en latin, c'est une enquête.
Et qu'est-ce que des Belges sont allés faire sur le lac Titicaca?
Bah Christophe, on s'est rencontrés parce qu'on avait eu des projets, on est amoureux de la Bolivie, la Cordillère des Andes, cette région, tous les deux. On était amenés à se rencontrer parce que moi j'avais fait d'autres documentaires en Bolivie. Et puis il m'a contacté, il m'a proposé son projet. Voilà, on en a discuté. Et puis il y avait une grosse prise de risque, autant pour lui que pour moi. Hein. Donc lui n'avait pas vraiment de garantie de trouver quelque chose. Donc en termes de production, en termes cinématographiques, c'était compliqué aussi à monter comme projet au niveau d'un financement parce qu'il n'y a pas de garantie de trouver un trésor. Quoi que ce soit. Ouais. Donc c'est ce qui a fait, on est parti dans cette aventure en cherchant des énergies à gauche à droite. En tant que petit belge, on a trouvé notamment des coproductions françaises qui nous ont chaleureusement et gentiment suivis sur ce projet. Ouais. Et le projet donc a commencé, on a commencé à filmer en 2013 et les images, c'est de la campagne 2013-2014-2015. Mmh. Etc.
Et donc c'est à voir sur France 5 mercredi 21h40, les secrets engloutis du lac Titicaca. Vous parliez de découvertes. Qui sait de trésors. En tout cas, on va parler d'or dans un instant.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Et sur RTL, nous sommes à 3800 mètres d'altitude au cœur de la Cordillère des Andes, au bord du lac Titicaca. On découvre l'histoire d'une expédition absolument hors norme, une première mondiale des fouilles sous-marines dans ce lac sacré pour trouver des traces de très anciennes civilisations. Et cette exploration est racontée dans un documentaire réalisé par Frédéric Cordier avec Christophe Delard à la direction du projet archéologique. Ce film est diffusé mercredi soir sur France 5. Il est rythmé par des découvertes et on imagine votre excitation quand les plongeurs ont remonté de l'or. Comment ils en ont trouvé et qu'est-ce qu'ils ont trouvé?
Alors pour répondre, c'est aussi en préambule, c'est aussi très chouette parce qu'il y a un double projet. Il y a le projet de film et le projet de fouille, donc il y a un dialogue qui se croise entre les deux. Donc évidemment, quand le plongeur, l'archéologue trouve un objet précieux, en métal précieux, et puis le producteur le voit aussi, c'est, on va dire, c'est très chouette. Avant tout, ce qui est, comment on le trouve, c'est lors de la fouille. Alors c'est très chouette parce qu'on parle de trésors, on a l'impression de trouver plein d'objets en or d'un coup. Non, il faut imaginer que c'est mélangé avec des objets, de la céramique, etc. D'ailleurs, pour faire une petite anecdote avec les problèmes de la langue, quand j'ai dit à la presse qu'on avait trouvé des feuilles d'or, donc en espagnol la mina de oro, ils ont compris la mina de oro,
une mine d'or.
Alors j'ai eu pas mal de problèmes en Bolivie là-dessus pendant quelques mois. Ça c'était pour la petite blague.
La ruée vers l'or. Voilà. Version
alors non, c'est pas ça. Alors avant tout, il y a quand même deux choses. Premièrement, nous qu'on trouve des objets en métal précieux, ça nous permet d'avoir justement des informations sur une pratique qu'on ne connaît pas bien, la métallurgie et sur ce type de métaux. Donc ça c'est surtout pour cette culture pré-incaïque. Donc ça c'est vraiment chouette. Et de deux, faut pas oublier qu'il y a une histoire quand même de colonisation, de pillage, et c'est ça qui est vraiment, on va dire, unique avec l'archéologie sous l'eau, c'est que c'est un sanctuaire au sens propre et figuré, c'est une barrière, on n'a pas pu piller ces sites, donc on retrouve des témoignages qui n'ont pas survécu.
Mais elles ressemblaient à quoi? C'était des pièces, des petites pièces d'or, c'est ça?
Ce sont des sortes de médaillons, de pendentifs, dimensions, il y a plusieurs mesures, il y a plusieurs tailles, il y a voilà.
Quelques centimètres.
Plusieurs centimètres, ouais.
C'est tout petit, mais c'est tout léger. Hein.
Certains ciselés, beaucoup plus anciens que d'autres. Il y a notamment un pendentif en or qui est très vieux, hein, Christophe, ouais. Je pense.
Alors déjà, il faut imaginer, hein, ce sont des feuilles, donc c'est très flexible, ça pèse entre 10 et 20 grammes, ouais. Ça fait entre 3 et 4 centimètres de côté, il y a des formes, il y a des pumas, il y a des pectorales carrées.
Alors, des pectorales, c'est quoi?
Des pectoraux, on dit pectoral, je sais pas comment
pectoraux.
On dit.
Des torses, des torses.
Voilà, on dit ça parce qu'on l'imaginait que c'était pendu, entre-temps, on pense que c'est associé à autre chose. La fonction est difficilement, on va dire, interprétable. Mm-hmm. Mais surtout, on se rend compte, en fait, il y a l'iconographie dessus, donc ça nous aide. On voit, par exemple, le dieu au bâton, une figure humaine, on va dire déifié, qui était taillé sur un petit pectoral rond, et puis bien sûr le pectoral carré qui était plus ancien, qui est une figure pré-Tiwanaku. Donc cette fois-ci,
c'est encore plus ancien.
Voilà, on remonte non seulement le temps jusqu'à cette culture pré-inquique qui est Tiwanaku, mais on remonte encore plus loin.
Et c'est donc 5e, 4e siècle peut-être, c'est
même
ça
avant. Par exemple, ici, on a déjà atteint 3000 ans d'histoire, on va dire, on arrive à 1000 ans, à l'âge du bronze en Europe continentale.
Donc voilà, on imagine des bijoux, c'est ça? Des représentations, des offrandes, des trésors?
C'est ça, c'est des appliques, on va dire,
des cadeaux
en métal
qu'on se faisait.
Il faut imaginer que c'était cousu sur des sacoches, sur des tissus, parfois ça peut être en pendentif. On a par exemple un tout petit puma en lapis lazuli bleu, tout petit, de 2 cm, magnifique, c'est de l'art pariétal, avec la veine de calcite qui fait le relief, donc c'est lié à ceci.
Petite parenthèse, on parle beaucoup du puma. Le puma, ça représente quoi pour les Boliviens, pour les Péruviens, pour les cités incas?
Alors,
c'est lui le spécialiste.
Ah, pardon, oui. En fait, c'est un peu comme chez nous, c'est comme c'est le psychopompe, c'est on va dire, l'animal qui amène le mort au-delà, on va dire. Donc, c'est un peu l'animal qui fait la transition entre le monde des vivants et le monde, on va dire, des dieux. Et justement, trouver, on va dire, des céramiques à tête de l'humain avec des petites feuilles en or ou des petits pendentifs en lapis lazuli en forme du puma sur le lieu dit du puma, entre guillemets, parce que le Titicaca, ça veut dire le rocher du puma. Finalement, tout se rejoint. D'accord. Et surtout, ce qui est plus chouette, c'est que les Incas, on les connaît, parce que les Espagnols ont noté leur histoire. Avant, pas du tout. Et on se rend compte que c'est des traditions orales qui datent d'avant les Incas, justement.
Alors, le fait de trouver des objets en or de plus de 3000 ans, excessivement bien travaillés, apporte pour nous le fait qu'on a toujours cette vision de l'Amérique du Sud, que l'histoire a commencé avec les Incas, en fait. Avant, c'était la préhistoire, puis les Incas. En fait, ça prouve que déjà depuis 3000 ans, il y a un véritable savoir-faire, il y avait des cultures extrêmement bien développées déjà. Et ça, voilà, c'est une histoire que nous, on ne connaît pas trop ici en Europe, en fait.
Alors, ce n'est sans doute pas vrai pour les pièces d'or, mais pour beaucoup d'autres objets que vous avez pu remonter de ces eaux du lac Titicaca, se posait une question, la question de la conservation.
Ayant vécu longtemps dans l'eau froide, chaque objet, chaque élément est désormais très fragilisé. Il faut absolument veiller à suivre un minutieux protocole de conservation pour chaque objet ou élément retrouvé. Cette tâche délicate est confiée aux deux archéologues conservatrices de l'équipe.
Vous réussissez à reconstituer un objet entier à partir de quelques fragments?
C'est ce qui est fait aussi avec le film, c'est qu'il montre toutes les chaînes, toute la chaîne opératoire, en fait. Et parce que les archéologues, on pense à des plongeurs, il y a plein de gens en amont, en aval, depuis la fouille, depuis l'étude, jusque justement à la valorisation des objets, ce que Frédéric montre très bien dans le film. Et bah, imaginez justement 50 fragments de céramique enregistrés, on va dire, sous l'eau. En fait, on se rend compte qu'on peut reconstituer comme un puzzle petit à petit les objets.
Un vase, une amphore, c'est ça,
les amphores sud-américaines, mais c'est plus ou moins ça. Ouais. Et ça fait partie de la démarche archéologique.
Et ça, ça se fait au bord du lac. C'est toute une équipe. Vous êtes, vous dormez au bord de ce lac pendant ces mois de recherche archéologique.
On vit sur les bateaux. Il faut savoir qu'on n'utilise pas du tout des bateaux. On utilise des bateaux locaux, donc des communautés indiennes sur place. Donc les communautés indiennes sont sur le bateau, nous aident à provisionner, à nous porter de la nourriture, à mettre le fuel dans les moteurs, à nous aider à aider les plongeurs à remonter. Donc il y a une véritable synergie. C'est ça qui est passionnant. C'est vraiment un travail de collaboration entre les communautés indiennes et nous. Et on vit au bord dans des petites cahutes, au bord des plages, au lit du soleil. Ce qui est passionnant aussi, c'est que moi, par exemple, en tant que cinéaste, bon, ils sortent une pièce en or de l'eau, un encensoir, une amphore. Bon, on a envie d'être tout prêt, on veut le grand plan, mais ils sont très minutieux. Attention, faut pas les
faire. Gardien du temple.
Il faut toujours pas l'abîmer. Donc, il y a tout un processus. Un rituel qu'il faut de préservation, qu'il faut faire attention.
Ce lac Titicaca, qui est, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent sur RTL, grand comme la Corse, est-ce que ça veut dire que peut y avoir des tempêtes?
Oui.
Les conditions météo, ça dit quoi, à 4000 mètres d'altitude, enfin 3800 mètres?
Oui, il y a même une marée. Il y a des marées de plus d'un mètre, un mètre à deux mètres, plus ou moins.
Et là, d'altitude, c'est très violent.
Il peut y avoir des vents jusqu'à 5, 6, 7 Beaufort parfois. Nous, il est arrivé de filmer où la mer se déchaîne et les plongeurs doivent remonter parce que ça devient trop dangereux.
Il y a encore des années de plongée au programme pour vous et de découvertes à faire, Christophe Delard ?
Il y a encore tout à faire, évidemment. Vu qu'on a plus ou moins travaillé sur 200 mètres carrés, imaginez la superficie, même plus maintenant, 300 mètres carrés, j'en suis très fier. Il y a beaucoup de travail et j'espère que ça va continuer pour les années à venir.
Et beaucoup d'histoires à raconter.
Ah, c'est ce que fait l'archéologue, il adore raconter des histoires.
Mais là, vous savez que vous allez pouvoir travailler sur ce lac Titicaca, sous ce lac Titicaca pendant combien de temps encore là?
Alors on continue jusqu'au 31 janvier 2019, puis on fait une petite pause, on part aux Bahamas, non je rigole, on traite toutes ces informations, parce qu'imaginez toute cette masse d'informations qu'on doit traiter par la suite, et donc on fera un break en 2019 et on espère reprendre l'étude, la fouille.
C'est presque l'histoire d'une vie, d'un grand bout de vie, non?
C'est un projet de vie sans doute. Moi, personnellement, je l'ai commencé il y a 10 ans et à un certain moment, on a quand même une certaine maturité sur le site. Donc, même si on me propose de travailler dans des îles exotiques, ma foi, je préfère rester au lac Titicaca.
Vous nous rappelez votre nom indien pour vous saluer?
Mon nom, donc c'est le Kotakatari, donc le serpent puma du lac.
Eh bien, merci beaucoup.
Kotakatari.
Kotakatari.
Christophe Delard, c'était passionnant. Merci. Frédéric Cordier, votre documentaire, Les secrets engloutis du lac Titicaca, il est à voir mercredi 21h40 sur France 5.
Vous écoutez RTL.